Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire ce matin, début hier mardi à Kinshasa, de l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que des logos des partis et regroupements politiques. L'objectif de cette opération de deux jours est de renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre prochain, dit la centrale électorale. Au Nord Kivu, l'armée maintient ses positions au niveau de Mushaki et Sake malgré les attaques depuis trois jours des rebelles du M23 qui tentent d'avancer vers ces agglomérations. Cette assurance est du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Vous l'entendrez dans ce journal. L'invité de ce journal est l'officier du bureau des porte-parole militaires de la force de la MONUSCO. Le major Hassan Keira parle de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri, qui était au centre des opérations de la force de la MONUSCO durant cette semaine. Vous êtes sur Radio Kapi et vous avez raison. Mesdames, messieurs, bonjour. Les élections, c'est dans exactement deux semaines. À la centrale électorale, le compte à rebours a commencé. L'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos des partis et regroupements politiques a débuté hier mardi à la maison des élections ici à Kinshasa. Cette opération de deux jours vise à permettre à tous les concernés de vérifier s'il y a des erreurs à corriger. L'objectif étant de renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre prochain. Grâce à Mzati Masanzi, reportage.
Ils sont des dizaines de candidats ou mandataires trouvés à la maison des élections ce mardi sous une pluie battante. Chacun est orienté vers un préposé pour la consultation. Après vérification, le candidat ou le mandataire valide les noms, la photo ou les logos de sa formation politique. En cas d'erreur, une fiche lui est remise dans l'immédiat pour correction. C'est le cas de ce mandataire du regroupement RDVA.
Il y a eu quelques erreurs matérielles. On a tout fait pour corriger cela. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, on leur a attribué un nom qui n'est pas le leur. Par exemple, tu t'appelles Kazali, mais on écrit Kazala. Ce sont des erreurs là qu'il faut vraiment corriger.
Cette initiative est saluée par la majorité des acteurs interrogés. Car selon eux, cette opération leur permet de se rassurer qu'ils seront bien identifiés par leurs électeurs les jours des votes. Témoignage de ces candidats du regroupement AUN.
Aujourd'hui, on nous appelle pour vérifier si les photos des candidats sont bien imprimées, si, n'est-ce pas, les noms, post-noms, tout ça, l'identité des candidats sont bien reprises. Ça nous prouve que la CENI est en train de faire des innovations pour améliorer la qualité des élections.
Cependant, beaucoup d'entre eux se plaignent du fait que cette opération de courte durée a été annoncée à la veille, alors qu'elle demande plus de concentration et de préparation.
Selon les directeurs de communication de la CENI, cette opération s'effectue uniquement dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi n'y sont invités que les candidats ou leurs mandataires, précise Jean-Baptiste Itipo. En bref, c'est hier mardi que la Commission électorale nationale indépendante a clôturé l'opération d'accréditation des observateurs, des journalistes et des témoins des candidats des partis et regroupements politiques pour les élections du 20 décembre prochain. Cette étape du processus électoral est cruciale car elle permet aux parties prenantes de surveiller les déroulements des élections du début jusqu'à la fin. Pour les partis politiques, les témoins sont les mieux placés pour la surveillance des opérations électorales. Dans le même chapitre, des centaines de jeunes désœuvrés, des personnes vivant avec handicap et autres étudiants du quartier Kingaboua dans la commune de Limété, ici à Kinshasa, ont été sensibilisés hier mardi sur le vote utile, conscient et responsable. C'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation d'aide au vote lancée la semaine dernière dans la capitale par les consortiums CEPAS, INADES Formation, Ebouteli, Acte 2023 et Pona Congo. Selon les points focaux d'acte 2023 dans la commune de Limété, cette campagne vise à combattre les actes de corruption lors des prochaines élections. José Menga estime qu'il est nécessaire de sensibiliser les Congolais sur l'importance du vote judicieux, fait en âme et conscience, et sur son impact sur la responsabilité publique des gouvernants. Il est au micro de Radio Kapi.
Après l'évaluation des dirigeants passés, maintenant là, nous nous sommes dit avec la population de mettre notre projet dans les outils. Afin que lui-même, étant que population, il va choisir qui est un candidat qui va porter ses projets. C'est pourquoi nous interdisons à la population de voter ceux qui viennent avec des polos, ceux qui viennent avec d'argent ou quoi d'autre, mais de voter par rapport à ces projets ici. Et nous voulons que cette population incarne ces projets, qui puisse imposer aux candidats ces projets afin que le Congo change de main.
Par ailleurs, cette attitude rappelle les femmes et surtout les jeunes à voter en faveur des projets de société de qualité qui mettent en évidence les valeurs républicaines et non sur les biens matériels comme les t-shirts, les objets ou autres cadeaux. Signalons que cette campagne est financée par l'Union européenne. En Ituri, pendant ce temps, la Monisco transporte à partir d'hier, mardi, les matériels de la CENI vers certains territoires. L'opération, qui va se poursuivre jusque vendredi prochain, a débuté avec 4 vols à Arou, à plus de 200 km de la ville de Bounia. L'assistance logistique de la Monisco répond à une sollicitation des responsables de la commission électorale face aux défis liés à la sécurité et aux infrastructures qui rendent difficile l'accès à certaines entités. Selon le secrétaire provincial de la CENI, cet appui de la Monisco va permettre de faciliter le bon déroulement des élections le 20 décembre prochain. Toujours hier mardi, cette fois dans le Nord Kivu, la Monisco a transporté par air 6 tonnes de matériel électoral de la CENI de Goma à Beni. Ce matériel est composé entre autres des kits bureautiques, des matériels informatiques et de quelques matériels pour la formation des agents électoraux. Cet appui de la Monisco au processus électoral qui a nécessité 2 rotations aériennes est destiné à faciliter le bon déroulement des élections générales prévues le 20 décembre prochain dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Une 3e rotation est prévue ce mercredi pour transporter 3 autres tonnes de ce même matériel électoral et toujours de Goma à Beni. Et puis, dans la suite de la diffusion des interviews des candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain, Radio Okapi reçoit Rajabu Mbira, candidat numéro 1. Il affirme avoir posé sa candidature à la magistrature suprême parce qu'il veut mettre en application sa vision de gouvernance dénommée « Les changements, c'est maintenant ». Il met l'accent sur le respect de la Constitution et l'application des lois de la République car personne n'est au-dessus de la loi. On écoute Rajabu Mbira au micro de Martial Kizabiamungu.
Kitu cha kwanza ni uchungu, tabu, kilio, umasikini za wa ndugu zangu wa kongomani.
Je déclare ma candidature à la magistrature suprême pour porter un changement dans ce pays longtemps meurtri depuis son accession à l'indépendance. Tout en étant victime, j'ai toujours suivi le cri de ce peuple. J'ai vécu la souffrance, la misère, les pillages des ressources à grande échelle et la paupérisation sans pareil du peuple congolais. Voilà ce qui m'a poussé à briguer la magistrature suprême pour les 5 prochaines années. Le pays est en recul par rapport à tous les autres pays à l'échelle internationale. Cela vaut autant pour les pays avec lesquels la RDC a accédé à l'indépendance dans les années 60 et même pour ceux qui ont accédé à l'indépendance après ce dernier. Tous se sont développés, quel que soit le développement que chacun a atteint pendant que la RDC marque le pas sur place. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de postuler comme candidat président de la République en vue d'apporter ma contribution au développement de ce pays sur tous les plans conformément à la Constitution, dont la plupart des dispositions sont violées.
Vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview exclusive à 8h30, 15h30 et 20h, heure de Kinshasa, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Par ailleurs, sachez que certains candidats présidents de la République poursuivent la campagne électorale à travers le pays. Le révérend pasteur Ngalassi était hier mardi à Kikwit, Constant Mutamba est à Bouta, Noël Tchani à Boma, Félix Tshisekedi à Lubumbashi, Moïse Katumbi à Lissala et Martin Fayulu à Mbandaka. Autre volet de l'actualité, au Nord Kivu, l'armée maintient ses positions au niveau de Mushaki et Sake, malgré les attaques depuis 3 jours des rebelles du M23 qui tentent d'avancer vers ces agglomérations. L'assurance est faite par les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Se confiant à Radio Okapi hier mardi à Goma, le lieutenant-colonel Guillaume Njike a appelé la population au calme et à collaborer étroitement avec son armée. Il est dit au micro de Bernard Nyangi.
La cité de Mushaki et toutes les collines surplombant cette cité sont bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Que notre population soit calme, qu'elle continue à avoir confiance en son armée. Pour ce qui est d'hier lundi, l'ennemi a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur 3 axes. Avec comme objectif s'emparer de la cité de Mushaki. Il s'agit de l'axe Goma-Minova, de l'axe Goma-Mushaki et une autre attaque a été frontale. Retenez que tous tous ces axes-là, l'ennemi a fait face à la puissance d'effet des forces armées de la République démocratique du Congo pour vous dire que nous continuons à garder nos positions initiales et que tôt encore ce matin, nous sommes en train de nous employer de manière à déloger l'ennemi qui est en train de tenter de consolider une de nos positions initiales.
Restons dans cette zone de combat pour parler de Mushaki dans le territoire de Masisi qui est une cité stratégique du point de vue économique dans la province du Nord Kivu. Située à environ 40 km au nord-ouest de la ville de Goma, en groupement Mufuni, Matanda, cette entité regorge de nombreuses potentialités économiques pour l'économie de la province du Nord Kivu. Cela de par ses divers aspects agro-pastoraux et touristiques notamment. Depuis Goma, Denise Loukesso nous présente la carte postale économique de cette cité, aujourd'hui menacée par les rebelles du M23 et leur soutien rwandais.
Située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma, la cité de Mushaki relie la ville de Goma à Masisi Centre. Beaucoup de produits vivriers en provenance de Masisi Centre passent par Mushaki avant d'atteindre Goma et d'autres centres de consommation de la province. L'axe Goma-Mushaki est très important pour l'économie de la province. Mushaki donne également accès à la zone minière de Rubaya. L'élevage est la principale activité pratiquée à Mushaki aux côtés de l'agriculture. Avec ses nombreuses fermes et un peuple pasteur, mais aussi cultivateurs, Mushaki alimente les villes de Goma et de Bukavu en produits laitiers tels que les laits frais, les fromages, le beurre et les yaourts pour ne citer que ceux-là. Les haricots, la pomme de terre, les petits pois, le maïs sont entre autres cultures pratiquées dans cette contrée. En dehors de l'aspect agro-pastoral, la cité de Mushaki est devenue aujourd'hui aussi un site touristique. En plus de sa végétation montagneuse, des collines verdoyantes, un paysage parasiatique, elle regorge de chevaux et ânes qui attirent de nombreux visiteurs. Mushaki détient également une usine de transformation de l'eau potable qui dessert la ville de Goma et d'autres entités. À ce jour, beaucoup de ces infrastructures économiques ont été détruites à cause des affrontements armés dans cette région, rendant ainsi l'économie du territoire et de la province fragile.
Et toujours au Nord Kivu, des femmes déplacées fuyant les combats entre les rebelles du M23 et la coalition des groupes armés locaux dans les territoires de Rutshuru sont victimes de viols sur leur chemin de fuite de la part des hommes armés. Depuis le début de cette année, 35 d'entre elles, dont certaines sont contrôlées séropositives, sont prises en charge au centre de santé de référence de Kanyabayonga dans les territoires de Lubero. Les détails avec Martial Papimukeba qui revient de la zone.
Ces femmes parcourent plusieurs kilomètres à pied avant d'atteindre Kanyabayonga. C'est en cours des chemins qu'elles sont violées, certaines plusieurs fois par des hommes armés. Elles présentent souvent des pathologies différentes, comme l'explique Fideline Kayenga, infirmière titulaire au centre de santé de Kanyabayonga.
Ils viennent avec des blessures, des grossesses post-viol, des infections sexuellement transmissibles. Il y a ceux qui viennent avec des plaies qui sont suturées même par rapport à ceux qui viennent avec des VIH. Il y a ceux qui viennent après 72 heures, ceux qui sont violés plusieurs fois et ils manquent quand est-ce qu'ils étaient contaminés.
L'anxiété, l'angoisse et des signes graves de stress post-traumatique font également partie du quotidien de ces femmes. Chance Muratuti, assistante psychosociale au centre de santé des références de Kanyabayonga, plaide pour une prise en charge holistique de ces femmes déplacées victimes de viols.
Nous voulons que les organisations viennent en assistance dans la prise en charge sur les plans physiques, psychosociaux, sur les plans juridiques et la réinsertion socio-économique.
Rappelons que ces femmes déplacées affirme avoir été violée en fuyant les localités de Kishishe et Kibirizi dans les territoires de Rutshuru. Des retours de Lubero, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Parlons encore du programme de développement local des 145 territoires sous la gestion de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, dans le Congo central. Nous vous proposons ce deuxième reportage de notre série débutée hier mardi. 20 ouvrages ont été construits dans ce territoire, dont 11 écoles primaires, 8 centres de santé, 1 bâtiment administratif. Parlant au nom des bénéficiaires, Bruno Ikoko, administrateur du territoire adjoint en charge de l'économie et finances, appelle les enseignants et les corps médicaux à gérer de manière responsable ces infrastructures pour l'intérêt communautaire. Bruno Ikoko a été interrogé par Paul Matendo, qui revient du Congo central.
La première phase a connu 20 sous-projets. Nous, autorités politico-administratives qui sommes appelés à conserver ça en bon père des familles. De même, par rapport aux instituteurs, les directeurs des écoles qui seront les gérants des bâtiments des différentes écoles, Nous allons les conscientiser à gérer ça en caractère de bons parents pour que ces bâtiments-là restent de manière l'image et braqués dans l'histoire de notre pays. Demain, nous allons aussi consulter les différents médecins, les infirmiers, qui vont gérer les institutions sanitaires, qui doivent gérer de manière rationnelle pour que ce soit pour l'intérêt de la communauté tout entière qui seront des malades au chevet de ces centres.
Actualité internationale.
Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, est en visite ce mercredi à Yaoundé, au Cameroun. Une visite attendue de longue date depuis la prise de pouvoir de ce général au pas de la rénovation de Libreville. Brice Oligui Nguema s'était en effet déjà rendu chez tous ses homologues de la sous-région, sauf à Yaoundé, où il va rencontrer ce mercredi après-midi en tête-à-tête le président camerounais Paul Biya. Troisième visite en Libye du vice-ministre russe de la Défense à moins de 4 mois. Younous Bekyevkourov s'est également rendu au Niger et au Mali afin, selon Moscou, de renforcer la coopération et les partenariats avec ces pays africains. L'étape libyenne a relancé la discussion sur la présence militaire russe en Libye et l'instauration d'une base navale russe à Tobrouk dans l'est libyen, un accord pourtant nié par l'armée nationale libyenne.
L'invité
de ce journal est l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le major Hassan Keïra, parle de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri, qui était au centre des opérations de la force de la MONUSCO durant cette semaine. Il s'entretient à Goma avec Bernard Denyangui. Suivez.
Major Hassan Keïra, bonjour.
Bonjour Bernardin et merci de me recevoir.
Il y a quelques temps, la MONUSCO a lancé l'opération appelée Springbok dans la zone où opère le 1-23. Comment ça évolue?
L'opération Springbok, lancée récemment pour protéger Goma et Sake contre toute invasion du 1-23, est une opération défensive. L'objectif de cette opération est de mettre en échec toute agression contre la zone à défendre. Les forces sont déployées autour des zones clés de l'axe d'entrée pour dissuader et repousser toute attaque ou tentative d'avancer vers la zone à protéger. La MONUSCO a déployé un nombre suffisant de forces défensives et d'éléments de tir indirect au niveau du Grand Nord, Petit Nord et Sud Kivu pour défendre Goma et mener des opérations offensives contre l'avancée du 1-23 vers nos positions défensives. La MONUSCO ayant orienté sa puissance de feu vers l'avancée du 1-23 et le fait que nous sommes fermement décidés à protéger le deuxième plus grand centre de population du pays ainsi que les personnes déplacées vulnérables qui ont afflué vers le périphérique pour échapper au 1-23.
Il y a d'autres opérations aussi qui évoluent du côté de l'Ituri, là où il y a des combats entre Codeco et Zaïre notamment.
Oui, c'était le 20 novembre 2023 où la MONUSCO a envoyé une patrouille sur le site de Tchei, situé à 27 km au sud du Djougou, suite à des informations selon lesquelles des éléments de la Codeco préparaient une attaque contre les personnes déplacées. La patrouille de la MONUSCO a atteint le site de l'incident et a découvert qu'un affrontement entre des éléments de la Codeco et du Zaïre à Kpalo, à 29 km du sud du Djougou, avait causé la mort d'un civil et en avait blessé un autre. La MONUSCO a évacué le blessé vers Droudrou, 18 km au sud-est du Djougou. Et plus tard, le 24 novembre, la MONUSCO a envoyé une patrouille sur le site de Tché en réponse aux inquiétudes soulevées par la population déplacée suite à des rumeurs d'attaques potentielles de la Codeco. La MONUSCO, en liaison avec les FARDIS, a maintenu une présence dans la zone, ce qui a facilité le retour des personnes déplacées qui avaient précédemment évacué le site.
Alors, dans la zone de Beni, il y a l'opération UPDF. Est-ce qu'il y a la participation de la MONUSCO?
Donc, une opération de l'UPDF visant à contrer les activités des ADF dans la zone située à l'est de la route nationale numéro 4 et au nord-ouest de l'Ingiti est en cours. Cependant, il y a eu récemment des cas très médiatisés où l'UPDF a mené des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans et autour de la zone d'opération de la MONUSCO à l'ouest de la route nationale numéro 4. La force de la MONUSCO n'est pas impliquée dans la conduite de cette opération. La MONUSCO s'est retirée de la zone dans laquelle ces frappes ont lieu en raison d'un manque de mécanismes de coordination et la nécessité de protéger ses soldats de la paix. Le mandat de la MONUSCO consiste uniquement à soutenir son partenaire congolais, qui sont les FARDC, et non les forces régionales opérant dans l'est de la RDC. Donc nous ne sommes pas non plus responsables des conséquences de ces opérations.
Autre chose, le 25 novembre 2023, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet?
La journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a eu lieu le samedi 25 novembre 2023. Cette journée marque le début de 16 jours d'activisme qui se poursuit suivront jusqu'au 10 décembre, la date de la journée des droits de l'homme des Nations Unies. La campagne appelle les citoyens à montrer à quel point ils se soucient de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, en partageant les actions qu'ils entreprennent pour créer un monde sans violence envers les femmes. La MONUSCO est fière de dire que la protection des civils, y compris les femmes et les filles, est au cœur même de la mission. Dans l'ensemble de la force, la mission dispose de 6 pelotons d'engagement mixte qui mènent des patrouilles et des activités régulières, souvent en collaboration avec les conseillers de liaison avec les communautés locales. Ces patrouilles ont pour but d'améliorer les relations avec la communauté locale afin de comprendre ses besoins, d'identifier les menaces potentielles à la sécurité et d'y répondre. Et en septembre et en octobre, la MONUSCO a mené plus de 90 patrouilles et activités d'engagement à travers les Touris, le Nord et le Sud Kivu, dans le but d'engager et de fournir une protection aux communautés locales, y compris les femmes et les enfants.
Alors, encore à Nitori, il y a eu un incident de tir près de Fatah Tiobi, c'est une base. Qu'est-ce que nous pouvons savoir à ce sujet?
Oui, c'était le 28 novembre 2023, vers 9h50, où des bruits de tir ont été signalés en direction du village de Ladélé. Une patrouille de la MONUSCO s'est rendue sur place et a découvert que lorsque les habitants travaillaient dans la ferme près de village, ils ont vu 4 présumés Kodeko avec des armes. Les phares d'essai ont réussi à arrêter 2 présumés Kodeko armés de machettes et la patrouille de combat de la MONUSCO a effectué une ronde dominante dans le village de Ladélé après l'incident.
Major Hassan Keira, merci.
Je vous en prie.
Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.